Puis on a un message à vous donner, vous les étudiants. Alors, je m'aperçois que les jeunes sont d'un bord ou de l'autre. Là. On a un message ce matin à vous donner. On aimerait ça que vous ne suiviez pas la foule, mais que vous soyez des rebelles. On aimerait ça que vous soyez rebelles, les jeunes. Rebelles à part des autres, que tu fasses pas comme la foule, que tu suives pas le courant, mais que tu marches avec le Seigneur. Amen. Tu veux être différent, tu veux être rebelle, il y a quelque chose en toi là qui dit « Ah, moi, je veux pas suivre la foule. » C'est parfait, tu l'as l'affaire, suis le Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas voir, tu vas être très à part. Et on va voir dans les Écritures quelqu'un, justement, qui a pas suivi la foule. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, alors qu'on a vu avec Jessica, comment est-ce qu'on reçoit, on est bombardé par ces enseignements-là, par le milieu intellectuel qui nous bombarde de très bonnes choses. La science a énormément avancé et c'est merveilleux. C'est quand même Dieu qui a donné l'intelligence. Il y a des belles découvertes qui se font encore aujourd'hui. Et on espère que la science va évoluer encore plus, surtout lorsqu'on parle de maladies, de cancers. Et on souhaite que la science avance dans beaucoup de domaines. Malheureusement, ces enseignements-là sont souvent entremêlés de fausseté, surtout à l'endroit de Dieu, à l'endroit de l'âme, de la vie éternelle, de la mort et du corps et du cerveau. Et malheureusement, il y a ces faussetés, ces erreurs qui circulent, qu'on essaie de promouvoir au sein de nos écoles, dans les universités, au secondaire, au cégep. Heureusement, il y a de l'espoir. Comment faire, et on se pose la question, comment faire, parce que parfois vous pouvez peut-être vous sentir tellement fragile, tellement petit, alors que vous êtes submergé par des grands intellectuels qui arrivent avec leurs grandes idées, entourés de milliers d'autres étudiants comme vous qui n'acceptent pas vos valeurs, n'acceptent pas vos convictions. Comment c'est possible de survivre alors que vous êtes baigné dans tout ce monde et que vous marchez à contre-courant? Eh bien, je pense qu'un savant qui se spécialise dans les plantes marines a réussi à trouver une très bonne réponse. Ce spécialiste aime énormément les plantes, particulièrement, c'est un savant très reconnu, il a écrit plusieurs documents et plusieurs articles. Et ce savant s'est particulièrement intéressé à des plantes qui poussent à l'intérieur de l'océan, mais environ 150 à 200 pieds de profond, pas plus. Alors, vous pouvez vous imaginer, à 150 pieds de profond de la mer, vous n'êtes pas tellement loin du bord. Et on parle de 150 pieds de profond, où tu as des plantes très, très minces, 4 cm, environ 1 pouce, très, très mince, effilées, fragile, et là, ça pousse du fond dans le sable, un sable mouvant, ça pousse, et c'est mince, là, tout le long, c'est pas plus gros dans le fond, très, très mince, ça pousse 150 pieds à 200 pieds, ça sort juste à l'extérieur de l'eau, où c'est frappé 24 heures sur 24 sur les vagues qui brisent et qui s'en vont sur le bord de la mer. Ce savant s'est questionné, s'est demandé, bon sang, comment cette plante si fragile, si petite, légère, fine, 150 à 200 pieds de haut, et sort à l'extérieur, décroche pas du sol, battue par les vagues 24 heures sur 24, contre les vents, les pluies, les saisons difficiles, tropicales, et ça reste là, mon ami, pendant 100 ans. Comment est-ce possible? Alors, lui, ça le fascinait, ce savant-là. Il a dit, il faut absolument que je trouve la réponse. Et finalement, cette petite tige qui creuse jusqu'au fond, plonge dans le sable mouvant, entre dans ce sable fragile du fond, pénètre et s'enfonce très creux et cherche un roc. Cherche une roche, et à un moment donné, ça s'en va, ça se promène, les racines se promènent en dessous du sable, jusqu'à temps qu'il y ait un roc souterrain, solide, qui n'est pas affecté par la température de l'extérieur, qui est en dessous dans une région très calme et protégée. Et là, la plante fait le tour du roc, s'agrippe, s'attache. Et mes chers amis, il n'y a pas moyen de le bouger de là. Et je pense que c'est là le secret. C'est que cette plante fragile et faible, mince, effilée, qui pousse et qui est frappée, qui marche à contre-courant, constamment frappée par les vagues qui brisent, qui s'en vont vers la rive, et est accrochée profondément. Ses racines sont attachées au roc. Et c'est ça le message qu'on veut vous laisser. C'était pour te tenir solide dans les universités et marcher à contre-courant. Il faut absolument que tu t'enracines solidement sur le roc qui est Jésus-Christ. Et on va le voir aujourd'hui comment c'est possible. On va aller voir un jeune homme de 14 ans qui était tout à fait entouré de fausseté et de fausses philosophies, qui a même été, qui a suivi son éducation là-dedans. Un jeune de 14 ans, un ado, qui s'appelle Daniel. Alors, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Daniel chapitre 1. C'est pas un livre facile à trouver. Je vais vous donner, c'est une petite lettre. Alors, elle est enfouie à quelque part. C'est un beau petit, une belle petite perle enfouie dans l'Ancien Testament. Prenez quelques secondes quand même à trouver ce livre. Alors, allez-y, prenez le temps de trouver le livre, sentez-vous pas mal à l'aise, c'est correct. Allez, c'est pas un livre facile. Vous pouvez toujours faire comme moi, acheter des onglets, c'est comme ça que je passe pour un savant, mais en réalité, je regarde mes onglets, ça règle le problème. Oh, la table des matières est aussi bonne. Daniel, le livre de Daniel, magnifique livre. Voici un jeune adolescent qui a été parachuté, qui a été enlevé par le roi de Babylone. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte, pour qu'on puisse comprendre mieux la lecture qu'on va faire dans un instant. On a fait une étude, un message récemment dans Daniel 9. J'ai brossé un peu le tableau de la situation de l'époque, du contexte historique de l'époque. Israël a été attaqué, attaqué par le roi de Babylone. Le roi de Babylone est venu assiéger Jérusalem, a détruit, et puis commence maintenant, ont tué plusieurs personnes, et là, ils vont se diriger vers Babylone, qui est le Irak, qui est l'Irak d'aujourd'hui. Ils seront en exil pendant 70 ans, et on a expliqué la dernière fois qu'on était ensemble que l'une des raisons pour lesquelles c'était 70 ans, c'est qu'on apprend dans le livre des Chroniques qu'ils avaient violé, les Juifs avaient violé, notamment 70 années sabbatiques qu'ils auraient dû respecter de la terre, le sabbatique agricole. Alors, les Juifs devaient travailler pendant 6 ans et la 7e année, laisser la terre reposer. C'était une année sabbatique agricole. Et on a bien vu que c'était pas juste une question physique. Dieu l'avait demandé pour son honneur, pour sa gloire. Et alors, on appelle cette période-là un septénaire ou une septaine, un groupe de 7 ans. Et on a dit, Dieu a dit, je vais vous enlever la même période de Jérusalem pour laisser reposer toutes les années sabbatiques que vous auriez dû m'honorer. On va laisser le pays se reposer pendant 70 ans. Alors, imaginez, ça veut dire que les Juifs ont été rebelles pendant des blocs de 7 ans et 70 fois ces blocs de 7 ans-là, qui veut dire pendant plus de 490 ans qu'ils ont violé la loi sabbatique agricole. Et ça, c'était l'un des grands péchés et Dieu avait dit, je vais châtier mon peuple, je vais vous enlever de Jérusalem, je vais laisser reposer ma terre pendant le même nombre d'années sabbatiques que vous m'avez pas honoré. Alors là, enlève le peuple juif de Jérusalem, emmène à Babylone où il y a le roi Nebuchadnezzar. Évidemment, on tombe dans une autre culture, un autre royaume, d'autres croyances, des idolâtres, de la magie. On fait la promotion de la magie, on étudie les étoiles, les astres, et il n'y avait pas de différence à cette époque-là dans la Méditerranée. Tout ce secteur entre les études des étoiles, la magie, l'astrologie, ça allait tous ensemble. On se spécialisait même dans l'interprétation des rêves. On avait d'immenses bibliothèques. C'était vraiment l'endroit le plus moderne de l'époque. des grandes écoles, il y avait plusieurs intellectuels, il y avait des bibliothèques même reconnues. Les archéologues ont trouvé d'immenses sites où il y avait des milliers de livres ou des rouleaux, des documents. On accumulait des interprétations de rêves. On se spécialisait dans plusieurs sciences comme les mathématiques, les sciences, l'interprétation de rêves, l'étude des étoiles. Alors, c'était très centré sur l'étude. C'était une ville très intellectuelle, un pays aussi où il y avait beaucoup d'idolâtrie, plusieurs divinités, et on croyait à plusieurs dieux, et on ne croyait surtout pas au Dieu de la Bible. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est que lorsque tu prends un pays, et c'est certainement une stratégie militaire, lorsque tu vas assiéger un pays étranger, ce que Babylone a fait, les Babyloniens sont venus assiéger la ville de Jérusalem, sont venus prendre les Juifs, et ceux qu'ils n'ont pas tués, font un grand voyage, les emmènent à Babylone. Et ce que tu veux faire pour aider à assimiler le peuple étranger aux nouvelles valeurs et à la culture et les aider à s'assimiler, ce que tu vas faire, tu vas prendre des étrangers, des jeunes gens, des adolescents du pays, tu vas essayer de les influencer, tu vas les éduquer, tu vas prendre les meilleurs, les plus beaux, les plus intelligents, tu vas les former, des gens très charismatiques, avec de belles personnalités, tu vas les former pendant quelques années, et si eux peuvent adhérer aux valeurs de l'autre pays, eux qui sont charismatiques, qui sont influents et qui sont des grands intellectuels, eux-mêmes, tu les mets dans des postes de leadership, alors là, c'est une façon pour aider aux pays étrangers de se laisser influencer par des membres de leur propre peuple qui, eux, ont accepté les valeurs et les coutumes du nouveau pays, voyez? C'est la stratégie. Vous prenez les jeunes gens, vous les éduquez, vous faites du brainwashing, du lavage de cerveau, vous les éduquez, et pour que tranquillement faire disparaître leurs valeurs, leur identité, et vous leur donnez la vôtre, et après ça, vous les mettez en poste de leadership pour influencer le pays étranger, pour que le pays étranger, tranquillement, laisse tomber leurs valeurs et adopte ceux du pays étranger. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on va voir en ce moment. On prend la lecture où Daniel se fait prendre avec ses copains et se fait emmener pour être justement éduqué. Donc, on prend la lecture au chapitre 1, verset 1. Daniel, chapitre 1, verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Et Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpénaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Vous voyez ce qu'on cherche ici, là? On cherche des futurs leaders, là. La crème de la crème. On veut les influencer, là, pour qu'ils deviennent des leaders et influencent les Juifs. Le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shédrac, à Michaël, celui de Meshrac, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu, verset 9, fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alors, on connaît bien l'expression « le lavage de cerveau ». Voici le processus qui commence. C'est le processus d'essayer de diluer les valeurs de ces Juifs qui arrivent et essayer de leur inculquer les valeurs babyloniennes. Lorsqu'ils ont capturé les Juifs, les Babyloniens étaient déterminés qu'il fallait absolument contrôler la nation juive. Mais comment tu fais ça si nombreux? Comment tu peux avoir un impact dans un pays étranger qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que toi? Alors, la façon, c'est justement de prendre ces jeunes et de les influencer, les éduquer pour qu'eux autres, à leur tour, puissent devenir des leaders et avoir une influence sur leur propre peuple. Alors, cette déportation a eu lieu en différentes phases. La première phase a eu lieu environ 605 avant Jésus-Christ. Et ils ont commencé donc à prendre une partie du peuple des Juifs, de Juda. Et des jeunes hommes ont été amenés à Babylone. Parmi ces jeunes hommes se trouve un jeune homme, Daniel, un adolescent. Il a environ à ce stade-ci 14 et 15 ans. On imagine Daniel, hein, quand on voit des photos, des peintures de Daniel et on le voit dans la cage aux lions, on imagine quelqu'un d'assez âgé avec une barbe, là, puis il est là, puis avec devant les lions. Mais en réalité, c'est quand c'est arrivé, ça, là, quand ça a commencé, il y a juste 14 ans à peu près, là. C'est un adolescent, là, c'est arrivé. Et là, on voit qu'il a trois amis avec lui. Alors, ils ont été choisis, c'est la crème, des beaux bonhommes, et ça le dit, hein, le texte le dit, belle figure. Les filles, là, vous l'auriez trouvé pas mal cute. Ça, c'était pas mal la crème de la crème, là. Alors, verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Alors, c'est évident que c'est pas compliqué, hein, t'entends leurs noms, puis c'est des noms juifs. Alors, leur nom est lié à leur Dieu. Leur nom les identifie à leur culture, voyez-vous, à leur nation. Donc, la première chose dans ce processus pour essayer de les influencer, de changer leurs valeurs, leur identité et leur culture, c'est justement de changer leur nom, voyez-vous. Ça rentre dans ce processus d'essayer d'acclimater, d'essayer de faire adapter ces Juifs qui viennent d'ailleurs à ce nouveau pays qui est Babylone. Et c'est pour ça qu'on lit au verset 7, chapitre 1, verset 7, « Le chef des eunuques leur donna des noms. » À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Pourquoi changer leur nom? Mais c'est facile à comprendre. C'est qu'on veut t'associer tout de suite au pays et on veut essayer de défaire ton identité juive. Vois-tu? Moi, c'est pas compliqué. Quand mon père allait à l'aéroport et puis on lui demandait son nom, il répondait, mon père qui était juif, il répondait, Ivor Isaac Yosef Michael. Alors, ça prenait juste quelques secondes. Ça prenait pas un doctorat pour savoir connaître son arrière-plan. Alors, ton nom te lie et t'associe à la nation à laquelle tu t'appartiens. Disons, c'était plus vrai dans ce temps-là, moins aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu peux être au Québec, tu peux avoir un nom russe. C'est différent. Mais à l'époque, le nom vraiment te liait à ta nation. Alors, c'est pour ça que tout de suite, la première chose que les Babyloniens vont faire, vont changer le nom de Daniel et va lui donner, fait intéressant, donner des noms à ses trois amis différents, il y a Daniel, des noms, et c'est très intéressant de savoir ça, c'est que les noms qu'ils avaient juifs, il y avait le nom du Dieu hébreu dans la racine de ces noms-là. Et ce n'est pas par hasard que le chef de l'eunuque leur donne des noms dans lesquels se trouve le nom de leur divinité à l'intérieur. Voyez-vous ce qui est en train de se passer, là? C'est que tout de suite, on est en train de faire ce qu'on appelle en anglais un « statement ». On est en train de faire une déclaration. On veut associer maintenant ces nouveaux aux dieux et aux divinités et la religion babylonienne. Et c'est le lavage de cerveau qui commence. Parce qu'un nom, dans ce temps-là, t'identifiait. C'est vraiment intéressant de réaliser que Daniel dit absolument rien à ce stade-ci. Il se laisse faire changer de nom. Parce que Daniel, au fond de lui, sait qui il est. Alors, tu peux l'appeler n'importe comment, tu peux te faire appeler n'importe comment, et sûrement, tu t'es fait appeler de toutes sortes de noms à l'école. Et on peut se faire appeler de toutes sortes de noms, mais au bout du compte, quand tu sais que dans ton cœur, tu as une relation avec Dieu et avec Jésus-Christ, on peut t'appeler toutes sortes de noms. Dans le fond, c'est-tu grave? c'est superficiel, Daniel le sait, puis Daniel ne bouge pas. À ce stade-ci, Daniel ne conteste pas. Il accepte son nom. Il ne sait peut-être pas à ce stade-ci, sûrement, nous, on l'apprend dans le Nouveau Testament, que vous savez qu'un jour, on va recevoir un nouveau nom. Pas vous saviez, c'est dans l'Apocalypse, nous allons avoir un nouveau nom qui va être écrit sur notre front. Le nom, n'oubliez pas, dans ce contexte-là, nous identifie à qui t'appartiens, à ta nation à laquelle t'appartiens. Et j'aimerais te lire un passage dans l'Apocalypse qui le dit. Apocalypse 22 dit ceci. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Alors, la Nouvelle Jérusalem, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Voilà, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et là, ça parle de vous autres. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Imaginez-vous donc un jour, on va voir la face de ton Sauveur. Tu vas voir sa face un jour. C'est incroyable, hein? Et ça dit ceci. Et son nom, le nom de l'agneau, son nom sera sur leur front. Ils disent que des tatous, hein, c'est ta vie. Bien, on va recevoir ici le nom, on va pouvoir là, se promener fièrement. Imagine-toi donc, le nom de l'agneau est ici, puis ça va t'identifier pour l'éternité que tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. Ah, mon Dieu, ça va être extraordinaire. Il n'y aura plus de nuit. Il n'aura besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et il régnera au siècle des siècles. Appelle-moi comme tu veux. Appelle-moi Normand. Appelle-moi stupide. Appelle-moi comme tu veux. Moi, je sais une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, je vais recevoir un nouveau nom. Puis il va être écrit ici. C'est celui de mon Sauveur. Donc, Daniel ne s'en fait pas ici. Il ne dit absolument rien. Un nom grave. Un nom qui est associé à la divinité des Babyloniens. Il ne dit rien. Il reste calme. Mais c'est le processus. Les Babyloniens ont voulu changer leur identité. Alors, ils changent leur nom. Mais ils vont aller plus loin et ils vont essayer de les influencer et de changer même leurs croyances. Alors, non seulement qu'on change leur nom, on va maintenant essayer de... On va les faire rentrer dans le processus de l'éducation pour essayer de les influencer. Et c'est ce qui se passe ici. Verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doux et de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui, écoutez bien ceci, à qui l'on enseignerait des lettres et la langue des Chaldéens. Alors, ils ont voulu les habituer à cette nouvelle culture, les aider à s'adapter maintenant et de prendre non seulement la connaissance, mais les valeurs du peuple babylonien. Alors, ils changent leur nom, leur fait passer pendant 3 ans par le système éducatif. Et les systèmes éducatifs, c'était très évolué à Babylone. Il y avait des mathématiques qui étaient très poussées, plusieurs sciences étaient très poussées, mais il y avait des enseignements assez nouvel âge à l'époque. Ils interprétaient des rêves et on t'enseignait ça, comment interpréter des rêves. Lorsque quelqu'un arrivait puis avait un rêve, c'était pas compliqué, tu allais dans la bibliothèque, tu essayais de trouver un livre qui décrivait le rêve que tu avais eu, puis disait, ah oui, ça ressemble pas mal à ça. Puis là, on t'expliquait, on interprétait ton rêve, puis on disait, oui, ça ressemble, tu as vu une montagne, tu as vu un âne passer, ou un chameau, ou là, oh, oui, il y a chameau, âne, puis tout ça. Puis là, on se fiait sur la littérature qui était déjà écrite, puis on se disait, OK, ton rêve ressemble à ça, on va l'interpréter. Ça a été un problème plus tard, hein, quand le roi Nebuchadnezzar, pas capable de dormir, a un rêve, oublie son rêve. Alors, le même matin, il dit, écoutez, il dit, là, vous autres, les experts, je veux que vous puissiez interpréter mon rêve. Alors, ils ont dit, aucun problème, donne-nous ton rêve, on va te l'interpréter. Ah, oh, on a tellement de livres là-dessus, mais je ne m'en souviens pas. Puis, il dit, moi, vous dire une affaire. Si vous êtes vraiment puissant, vous allez être capable de le trouver, de le deviner. Si vous êtes vraiment doué de Dieu, vous allez être capable de le deviner, vous allez le trouver, sinon, je vous tue. Et là, on sait ce qui est arrivé, hein. Daniel l'a su. Parce que Dieu va le douer, et on va voir ça dans un moment. Alors là, on change leur nom, on change, on le fait passer par le processus d'éducation, on veut l'influencer par le système éducatif. Et troisièmement, les Babyloniens ont voulu changer leur style de vie. Et là, on rentre dans la nourriture. Alors, verset 5, « Le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de la table, de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. » Alors, non seulement qu'il va changer leur vie, leur nom, non seulement qu'il va changer leur toute leur connaissance et les influencer par le système éducatif, mais maintenant, on va essayer de changer leur style de vie. Et là, c'est là que ça brasse. C'est là que ça arrête. Il y a une raison pour ça. Même si la nourriture était excellente, ça ne s'inscrivait pas dans les prescriptions que Dieu avait données sur le régime alimentaire. Parce que voyez-vous, la façon que tu te nourrissais chez le peuple juif, c'était spirituel. Dieu avait dit, tu vas manger telle viande, c'est impur. Tu ne mangeras pas de porc, c'est impur. Il y en a qui sont purs, il y en a qui sont impurs. L'agneau, c'est correct et tout ça. Et il avait donné une liste de nourriture cachère qui était pure et de la nourriture qui était impure. Alors là, Daniel arrête, recule. Les 4 jeunes hommes ont accepté les nouveaux noms. Ils ont même, à la rigueur, accepté l'éducation séculière. Mais quand ils sont arrivés à ce 3e changement-là, là, ils refusent. Regardez bien ce qui se passe, c'est vraiment intéressant. Verset 8. Et jeunes gens, rappelez-vous, on parle d'un jeune homme entouré de non-croyants dans un pays totalement idolâtre qui ne croit pas à ton Dieu et qui a 14 ans. Ses parents sont pas là. Il est isolé. Il est avec le roi dans le palais. Il est seul avec quelques copains. Et tout d'un coup, il prend position, verset 8. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à le souiller. Daniel prend la décision de ne pas se souiller, parce que Daniel savait très bien qu'ici, c'était une question de sainteté. Et Daniel veut se garder pur parce que pour lui, ce qui est plus important, c'est pas ce qui va arriver dans sa vie, c'est sa relation avec Dieu. Alors ici, c'est spirituel. Le nom, c'est superficiel. L'éducation, à la rigueur, peut toujours filtrer l'éducation avec la parole de Dieu. Vrai? Il n'avait même pas de Bible avec lui à ce moment-là. Mais quand même, il a reçu une bonne éducation parce qu'il a 14 ans, alors il a passé sa jeunesse à étudier sur Dieu, d'où l'importance d'enseigner la parole de Dieu aux jeunes. Dès qu'ils sont jeunes et grandir dans la foi et comme parents, c'est important. Mais rendu ici, il n'y a pas de Bible avec lui, là. Alors, il est très isolé. Puis c'est frappant de le voir, Daniel, il va se tenir debout, il va refuser de faire des concessions ou des compromis. Et c'est ça qu'on veut vous lancer comme message, de décider que ce matin, vous puissiez faire comme Daniel, de prendre la résolution de ne pas vous souiller, de ne pas vous souiller au cours de cette nouvelle année scolaire, mais de vous tenir pur devant Dieu. Et c'est ça ici qu'on l'on voit dans la vie de Daniel. Et pourtant, il était entouré de tentations, est-ce que je peux vous le dire? Il était au palais du roi, c'était plein de tentations. L'argent en abondance, la richesse, les femmes, la boisson en abondance, il y avait tout ce que tu pouvais imaginer que tu vas voir si la tentation était là. Mais Daniel s'est tenu. Malgré les nombreuses tentations d'avantages financiers qu'il aurait pu soutirer Daniel, malgré son éducation séculière et les encouragements des non-croyants qui étaient autour de lui, qui se tenaient avec lui là-bas, les Babyloniens qui essayaient de l'influencer, l'aider à s'adapter à cette nouvelle culture. Malgré ça, malgré l'énorme pression qu'il subissait à se conformer à ces valeurs-là, malgré l'ambition qu'il aurait pu avoir, facilement avoir, dans la cour du roi, il n'a fait aucun compromis puis il s'est tenu debout. Proverbe 4, 23 dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Garde ton cœur à l'école. Garde ton cœur au cégep. Garde ton cœur à l'université, au secondaire. Garde ton cœur pur, accroché sur le roc qui est Jésus-Christ. Regarde l'assurance de Daniel. Il n'avait pas honte de sa foi. Vous remarquez comment il a parlé au chef de l'eunuque, là? Il n'a pas honte de sa foi. Regardez au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il va voir le chef des eunuques et lui demande de ne pas l'obliger à se souiller. Maintenant, ça, c'est tout un culot, là. Il aurait pu littéralement se faire tuer avec ça. Alors, il va voir le chef des eunuques, lui demande de ne pas l'obliger à se souiller. Puis non seulement ça, il affiche ses couleurs. Il dit, ta nourriture va me souiller. Ta nourriture n'est pas cachère, c'est impur. Et ta nourriture va me souiller, je vais être impur si je mange ce que tu manges. Non, mais c'est tout quand même, c'est du culot, ça, là. Hey, c'est de l'assurance. Non, il est poli, pas arrogant ici. Il y a une fermeté, il y a une assurance, il y a une délicatesse. N'empêche qu'il reste, il se tient debout, il affiche ses couleurs. Alors, il va voir le chef de l'eunuque, puis il dit, écoute, j'aimerais te demander, et le mot hébreu dit demander, il demande. Il dit, écoute, j'aimerais te demander de ne pas m'obliger à me souiller. Puis il appelle les affaires par leur nom. Je vais pécher si je mange tes affaires. Mais toi, comment tu te sens? Ce sont les mets du roi. Maintenant, c'est le caviar du pays. Et Daniel dit, je peux pas vraiment manger ça, là. C'est impur. Non, mais mettez-vous dans le contexte, là. Ça prend du culot, là. Le gars, il a 14 ans. Il dit, non, il dit, je peux pas manger ça, vois-tu, parce que mon Dieu ne veut pas que je mange ça. Ça va me rendre un peu, j'aimerais te demander de ne pas, tu sais, il n'y a pas parti à crier, puis dire, non, il n'y a pas question, moi, je mange pas ça. On parle pas de ça ici, on parle de quelqu'un qui a une foi tranquille. Vois-tu? Il y a une tranquillité, il y a une assurance. Il est bien dans sa peau, Daniel. Sa foi n'a pas de complexe. Tu comprends? Pas de problème, il n'y a pas de gêne et de timidité. Il n'y a pas d'esprit de timidité ici. Là. Il est bien dans sa peau. C'est un enfant de Dieu. Puis il dit, sais-tu, j'aimerais te demander non. Ah, le gars, il est embêtant devant lui. Là. Puis c'est ça qu'il va dire. Il va dire, écoute, moi, là, si je te donne pas ça, puis si je te donne juste ce que tu veux, tu manges des légumes, quelque chose, là, tu vas aller fatigué. Tu sais, quand tu es sur une diète, tu l'air fatigué. Tu vas fatigué. Tu as beau manger 3-4 bols de salade, tu l'air fatigué. Il dit, moi, là, si je te donne des salades, puis tout ça, puis des carottes, puis tout ça. Moi, là, si le roi rentre puis voit le visage, puis voit que tu as l'air déprimé, c'est pas compliqué, c'est moi qui vais passer au gâche. Moi, il va me tuer, là. Ça veut dire que j'ai pas fait mon travail. J'ai reçu un mandat, j'ai reçu une mission de prendre soin de vous autres, de vous gâter pendant 3 ans, vous éduquer, vous nourrir, prendre soin. Vraiment, là, que tu sois, là, comme après 3 ans, waouh, regarde le gars, là. Alors là, si tu as l'air déprimé puis le roi passe, c'est pas compliqué, c'est moi qui ai le premier. Vous allez tous mourir, mais moi aussi, je vais mourir. Alors là, tu me demandes quelque chose d'assez dur. C'est intéressant de voir quand même l'assurance de Daniel. Regardez bien ce qui se passe. Et en passant, le psaume 119 dit ceci, « Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai pas. » Rougissez pas, les amis. Vous êtes seul dans une classe à croire en Dieu, il y a 25 élèves, vous êtes tout seul, agissez comme Daniel. Tranquille. Tranquille. Vous êtes sur le bon bord. Ne pas vous énerver. Dieu est avec vous autres. Alors, affiche tes couleurs, vas-y. Dis, non, 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 moi, je crois pas à ça. Là, tu vois, c'est sûr, toute la claire va sortir de notre base. Mon ami, es-tu rebelle? C'est correct. Daniel l'a fait. Alors, Daniel lui dit, écoute, moi, j'aimerais ça que tu, vraiment, avec ça, si tu pouvais me faire manger autre chose. Alors là, le gars dit, écoute, je peux pas faire ça, ça n'a pas de bon sens, je vais mourir, il va me tuer. Si le roi passe, il va me tuer. Alors, Daniel, il aurait bien pu arrêter là, puis aller voir ses chums, puis dire, écoute, ça marche pas. J'ai essayé, écoute, ça, il n'y a rien à faire. T'sais. Daniel aurait pu prendre d'autres raisonnements aussi, aller voir le chef de l'eunuque et dire, écoute, moi, c'est-tu depuis que j'ai 11 ans, j'ai mal au ventre, moi, de cette nourriture-là, pas très habitué, j'ai des tumeurs, pis des fois, j'ai des ulcères, pis ça, je suis nerveux, pis ça. J'ai essayé à 11 ans, manger ça, cette nourriture-là, pis ça me fait pas, je dors mal la nuit, pis ça. Non, non, il dit, ça va me souiller. Ça va me souiller. C'est pas correct manger ça, mon Dieu veut pas. J'aimerais te demander si c'est possible de pas m'exposer à ça, je veux pas me souiller. Alors, le gars, il dit, je peux vraiment pas. Ça n'a pas de bon sens. Alors, Daniel aurait pu dire, ah, Seigneur, tu vas bien. J'ai voulu t'obéir. T'as vu, il a dit non. Hein, parce qu'après tout, non, c'est non. Alors, c'est l'autorité. Alors, Daniel, il est entêté. Non, c'est un rebelle. Il est entêté, gentiment, poliment, avec beaucoup de politesse, là. Mais c'est pas une question d'arrogance, c'est sa persévérance, c'est sa foi qui a une tranquillité. C'est déroutant, hein? Alors, il regarde le chef, puis il dit, « Mets ma foi à l'épreuve. Je te dis, Dieu va m'aider. » Pendant 10 jours, fin test. Donne-moi la nourriture, là, juste des légumes. Juste des légumes, de l'eau, puis tout ça, pendant 10 jours. Puis quand tu reviendras après 10 jours, si tu me vois déprimé, puis on allait malade, puis on attrape la grippe, puis tout ça, bien, à ce moment-là, c'est correct, on suivra. Mais, attends-toi bien de voir quelque chose de vraiment spécial. Là, il ne faut pas aller plus loin que le texte ici. Ce n'est pas un cours de diététiste. Il n'est pas en train de suggérer qu'il faut devenir végétarien. On peut-tu régler ça tout de suite? Il ne faut pas faire dire au texte que le texte ne dit pas. Savez-vous, c'était illégal d'être un végétarien pour un juif? Comment veux-tu célébrer la Pâque où il faut que tu manges un agneau? OK? C'est pas un cours végétarien. Non, mais ça aurait été compliqué. Veux-tu que je te donne ma liste de ce qui est correct? La viande, porc, non. Agneau, oui. Puis... Alors, écoute, Daniel simplifie l'affaire. Il dit, écoute, c'est pas compliqué. Donne-moi juste les légumes. Et je pense que Daniel veut faire le point. S'il veut lui montrer ici quelque chose. Il veut dire, écoute, ce qu'il veut lui montrer, c'est que Dieu est sur mon bord. Et Dieu va me protéger. Puis Dieu va faire en sorte que je sois en santé. On s'entend-tu? Alors, le gars, il dit, 10 jours? Tu négocies pour 7? Non, non, il dit, vas-y, 10. 10 jours de légumes, mais mon ami. Qu'est-ce que tu as à faire avec 10 jours de légumes? Hein? Mais Dieu n'était pas nerveux. Daniel n'est pas nerveux parce que Dieu est avec lui. Hein? Alors, il dit, vas-y. Alors, là, il donne des salades, puis tu sais, le lendemain matin, il regarde, tu sais, il met son cadran, ça va voir les gars. T'sais. Les gars, on devrait faire des push-ups, puis tout ça, on est en forme. Oh, my God, OK. Là, ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu sais, le gars, il retourne d'abord, on va voir Daniel, puis tout. Mais là, là, il est en train de chanter, en pleine forme, mon ami. Ça a plein d'énergie, plein, comme s'il avait pris 3-4 pilules de vitamine E, mon ami. T'es en forme, là. Puis comme de fait, après 10 jours, m'en prendre juste de l'eau puis des légumes, hey, les gars, ils ont l'air en forme. Pète le feu. Plein d'énergie. Qu'est-ce que tu penses que Dieu est en train de nous donner comme message à travers cet événement-là? C'est que quand tu tiens debout, tu affiches tes couleurs. Écoutez bien ceci, jeunes gens et étudiants. Quand tu te tiens debout, Dieu va t'accompagner et te protéger. Dieu est avec toi. Il va préparer les cœurs. Et regardez bien ce qui se passe ici. C'est que nous lisons dans le texte, et ça, c'est un verset important, que Dieu a préparé le cœur du chef et l'a rendu compatissant à l'endroit de Daniel. Vois-tu que la main du roi même est dans la main de Dieu. Et c'est bon de se rappeler que Dieu travaille même dans le cœur des inconvertis. Savais-tu qu'il travaille même dans le cœur de tes ennemis? Et c'est ce que dit Proverbe 16:7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Tiens-toi debout quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est incroyable comment Dieu a la capacité de changer un cœur qui est dur, qui semble froid, et tranquillement le changer et disposer son cœur. Incroyable. Moi, j'ai vu ça récemment. Je suis allé avec ma voiture Yaris. J'ai une petite Toyota. Fait, alors, je m'en vais chez mon garage pour faire un traitement anti-rouille. Puis, ils ont un service, ils appellent ça un service de limousine, c'est une van. Puis là, tu attends parce que, tu sais, le service anti-rouille, ça prend une couple d'heures, alors ils peuvent te reconduire à la maison chez vous. Donc là, j'attends, on est une gang de gars, là, tu sais, puis on est là, de bonne heure le matin, 7h15, puis on est assis, on prend un café. Puis le gars, il y a un gars qui arrive, puis il dit, là, on lui dit, le gars de service, mécanicien, il nous dit, écoute, là, tu vas voir le gars, le chauffeur qui s'en vient, puis il va vous prendre, toute la gang, puis il va vous chauffer, il va vous reconduire chez vous. Ah, mon doute, parfait. Il y a un gars qui rentre, mon ami, là. Mesure 6 pieds et quelques, tu sais. Bah, ouais! Tu sais, le genre de gars, qui parle, puis il crie. « Ouais, OK, c'est qui, ça, là? Là? » Il est à côté, à 3 pieds de moi. « C'est qui, il faut que je la conduise, là? »« OK, puis c'est qui, là? Là, j'ai des noms ici. » Il crie tout le temps. Tout le monde en train de crier. Alors là, ben, j'ai dit, « C'est moi. » Elle dit, la gang, on est en bac dans son train. « Ah! 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 Fais-tu beau, hein? » Là, il parlait, voilà, il parle grosse voix, là, tu sais, puis... Ma femme appelle ça les grosses voies agricoles, là, tu sais, c'est comme, aïe, 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 tu sais, c'est dans le camion, là, tu sais, puis, ben, comment ça va? Puis là, il n'y avait pas beaucoup de place, moi, j'étais le dernier à rentrer, puis ça, je me suis assis en arrière, t'es pas y aller, là, il parle, on aime ça, tu sais, puis, ah, bon. En tout cas, il reconduit tout le monde, tout ça, puis à un moment donné, tu sais, je reste tout seul, j'étais en arrière, puis ça me tentait pas pantoute d'aller en avant, là, tu sais. Fait que, il dit, ah, moi, si, voilà, oui, oh non! Il est là, OK, c'est ça. Fait que là, je me suis avancé juste d'un banc. Dans le milieu, je dis, va aller me laisser tranquille. Ben oui, oh non! Mais rien à l'avant, à côté, pour qui tu te prêtes? Dans le cas, il s'en vient. Là, tu t'assois à côté, tu dis pas un mot. Puis, tu sais, là, commence à jaser. Fait que là, à un moment donné, on était tout seul. On était dans les champs, tu sais, McMasterville. Il y a des champs de blédin. Puis, on était tout seul. Puis, on commence à. Là, un moment donné, il parlait. Puis, là, j'ai dit, hey, mon gars, ce gars-là, il n'a pas tout ouvert l'évangile. Là, bon, j'ai dit, hey, ça n'a pas de bon sens. Il y avait une voix, tu sais, une petite voix qui vient du Seigneur qui dit, mais c'est le temps, là. T'es tout seul. T'es tout seul. Parle-y du Seigneur. J'attends. Vas-y. Là, j'étais là, je dis, ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Là, il va me sauter dessus. Alors, il dit, c'est ça, vas-y. Vas-y. Alors, j'ai dit, OK, on va s'essayer, écoute, on fait une pitchera d'or dans le champ. Là, c'est bon. L'église de Longueuil prendra ça en première page du Journal de Montréal le lendemain, tu sais, battu pour sa foi, je sais pas trop. Fait que, là, mon ami, je suis là, puis je suis dans la vanne, puis je le regarde, puis j'ai dit, avez-vous la foi, vous, monsieur? Hein? Oh, ça y est, je suis mort. Non, avez-vous la foi? Et là, je l'ai vu, là. Descendre. Hey, j'étais même plus de même âme. Descendu, c'est calmé. Là. Puis là, il regardait de même. Il dit, sais-tu? Il dit, mon frère a beaucoup de la foi. Moi, je l'avais. J'avais la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Il dit, dans les dernières années, là, je me suis éloigné. Incroyable, hein? Et là, on a pu partager l'Évangile. Puis on s'est revus par après, il est venu me chercher plus tard. Et il parlait aussi fort, mais j'ai vu que quand Dieu veut faire une œuvre dans le cœur de quelqu'un, il dispose son cœur. Et c'est ce qui est arrivé avec Daniel. Dieu a changé le cœur de ce chef des eunuques pour le disposer, qu'il soit favorable, qu'il y ait de la compassion. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de tenir ferme? Puis de voir ces aventures où Dieu va toucher les cœurs les plus durs à travers toi. Vous avez vraiment une mission spéciale. Moi, je ne peux pas rentrer au cégep et voir mon petit comme ça, puis dire bonjour, salut, ça va bien, je vous aime beaucoup, j'aimerais vous parler de Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Puis je pense que ça, les gardes de sécurité vont peut-être venir après quelques minutes, je ne sais pas. Mais vous autres, vous êtes là, vous êtes au cégep, vous êtes dans l'université, Dieu vous envoie dans ce champ missionnaire. Et ça, c'est propre à vous autres. Ça vous appartient. Et combien de jeunes gens ont accepté le Seigneur justement dans ces âges-là, comme on l'a vu dans les statistiques tantôt? Mais il faut se tenir ferme. Il faut se tenir. C'est incroyable ce que Dieu peut faire à travers vous. J'ai acheté un livre, et je vais terminer là-dessus. J'ai acheté un livre cet été, dans mes vacances, un livre qui s'appelle « Finding God at Harvard ». Trouver Dieu à Harvard. Et puis, c'est 42 témoignages de gens, de profs, même à Harvard. Ils se réunissent à la faculté de droit à Harvard. C'est des chrétiens évangéliques, des profs qui sont dans la faculté, des membres de faculté, des étudiants, anciens étudiants. Ils se réunissent comme ça, ils appellent ça le Forum Veritas. Et ils se réunissent et ils n'ont pas peur d'adresser des questions intellectuelles, toutes sortes de questions. J'ai la liste dans la liste. C'est vraiment intéressant de voir ça. Et ça a tellement eu un impact à Harvard que même ABC News Tonight a envoyé des caméras pour les filmer, puis c'est en train de faire le tour, c'est rendu maintenant dans 75 autres universités où ils ont ces forums, puis quand ils annoncent ces forums-là de Veritas, les étudiants remplissent cette faculté de droit-là pour aller entendre adresser des questions intellectuelles, mais avec des réponses. Vous pouvez faire la différence, comme Daniel a fait la différence. Vous savez, Daniel est rentré comme un prisonnier, et on le voit à la fin du livre, 70 ans après, le premier ministre du pays. Et il a refusé de lancer la serviette et d'adopter les valeurs babyloniennes. Et il a été, au contraire, il a appris Il a appris la connaissance babylonienne pour savoir comment mieux présenter la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu s'en est servi pour être une influence dans tout le pays. Le pays au complet a été influencé par cet homme-là, parce que ça commence au premier chapitre, quand il était isolé, personne ne le connaissait, mais c'est tenu droit. Moi, je vous lance ce défi-là, les jeunes gens. Vous pouvez faire une différence et Dieu va vous accompagner comme il l'a fait avec Daniel. J'aimerais inviter tous les jeunes gens, tous les étudiants ici à se lever comme vous l'avez fait tantôt, parce que j'aimerais prier pour vous autres. Pouvez-vous juste vous lever? J'aimerais inviter Jessica. Où est Jessica? Peut-être en train d'enseigner une classe. Ah, t'es là. Mets-en, Jessica. On a besoin de. Vous avez besoin de prière. Mets-en. Monte avec nous. On va prier pour vous autres, d'accord? Seigneur notre Dieu, tout d'abord, nous aimerions te remercier pour ta grâce et ton salut. Te remercier parce que je suis un de ceux, comme parmi d'autres ce matin, qui se sont levés. Alors que nous étions jeunes, tu t'es manifesté à nous et t'as parlé à nos cœurs. Seigneur, nous voyons cette belle jeunesse qui est ici ce matin et puis qui... Et on te prie que cette belle jeunesse puisse prendre cette résolution dans leur cœur de ne pas se souiller, de ne pas marcher selon le courant et suivre la foule, mais de prendre cette décision dans leur cœur de marcher à contre-courant. Et comme cette belle plante marine qui est fragile, qui n'a que juste un petit pouce d'épaisseur, frappé par les vagues qui brisent, qui ne cesse de vouloir l'emporter au loin, se tient parce qu'elle est accrochée au roc. Nous te prions, Seigneur, que notre belle jeunesse puisse se coller à toi, se tenir, et puis que cette année scolaire soit leur plus belle année dans la foi. Oui, ils vivront toutes sortes d'expériences, Seigneur, des déceptions sûrement, plus qu'une, mais que ces expériences puissent les rapprocher de toi, Seigneur. Bénis Jessica, son beau ministère qu'elle est en train de remplir dans ses écoles, au cégep à côté. On te prie pour le cégep, plus gros cégep au Québec, Seigneur. Nous voyons ces milliers d'étudiants. On regarde les statistiques, Seigneur, plusieurs de ces étudiants ne connaîtront même pas une année supplémentaire, déprimés, découragés de la vie. On te prie, Seigneur, que tu puisses toucher ces jeunes gens. On pense à cette parole de l'ancien président de Harvard qui disait qu'aujourd'hui, la crise de l'éducation, c'est un grand vide. C'est l'excellence sans âme. Eh bien, Seigneur, nous te prions que tu puisses donner une âme vivante, que tu puisses toucher le cœur de ces étudiants et bénir ce beau ministère chez les jeunes gens. Bénis la jeunesse de Longueuil. Mets ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur, afin de te glorifier comme Daniel l'a fait. Au nom de Jésus. Amen.